J'ai essayé de vous parler de la relation entre les plateformes, les structures numériques et le monde réel, c'est-à-dire le monde du travail, le monde du commerce, le monde de la fabrication des objets et le monde des relations démocratiques et de la capacité en fait de ces fameuses public relations à transformer le mode de relations démocratiques. Dans la deuxième partie, on va revenir sur l'information elle-même, donc l'Internet comme outil aussi de création, diffusion de l'information. Et donc, avant de parler d'information, il nous faut commencer à parler de la langue elle-même. C'est en fait, il faut se poser la question, à quoi sert la langue ? On pourrait dire spontanément que la langue sert à décrire ce qui est, que ce soit nos sentiments internes ou l'état du monde comme il est aujourd'hui. Oui, mais la langue sert à bien d'autres choses. Par exemple, la science est une forme littéraire. C'est une forme de littérature spécifique qui donne un cadre pour essayer d'expliquer le fonctionnement du monde. Je dis bien essayer d'expliquer. On trouve des choses, on avance et puis on s'aperçoit que ça pourrait être encore un peu plus complexe et donc on continue de travailler sur des sujets qui ont été travaillés depuis des siècles maintenant. La langue sert aussi la langue de l'hypnose. Dans la mise en hypnose moderne, médicale, ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, le moment où on fait introduire la personne en hypnose, il y a toute une capacité de l'hypnotiseur à faire une langue qui va le déstabiliser, quelque part, qui est ce qu'on appelle des coq à l'âne en littérature, passer d'un sujet à un autre, etc., faire confondre le haut et le bas, de manière à pouvoir créer une confusion mentale telle que la personne va pouvoir partir en hypnose et se recentrer. Donc c'est aussi un des aspects de la langue qui sert, par exemple, à notre insu, dans les relations amoureuses, ce qu'on se dit dans la rencontre amoureuse, dans la drague, etc., a un effet de type hypnotique, c'est-à-dire la réalité quand même d'essayer de convaincre l'autre qu'il est bon d'engager une relation. Ouais. Et enfin, il y a la langue qui sert pertinemment à détruire la société. C'est la langue 1984. On réduit souvent... Qui d'entre vous a lu 1984 ? Oh, il y a quand même une sacrée bande de vénards parmi vous à qui il reste ça à découvrir. On réduit souvent 1984 à la surveillance. Big Brother is watching you. Hein ? Donc ce télécran qui sert à la fois de capteur et de rendre la présence de Big Brother en permanence chez les gens. Mais la vraie structure du roman, le vrai sel de ce roman-là n'est pas là. Il est dans la manière dont Big Brother, dont le dictateur, va tordre le langage pour rendre les choses incompréhensibles aux gens. C'est cette fameuse citation « La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force », enfin, etc. C'est ses capacités d'avoir des discours de propagande qui tordent complètement le langage. C'est avant tout un livre sur la langue et sur l'emprisonnement quand la langue n'est plus en relation avec les faits, avec le monde réel, avec les idées, les émotions qu'on peut ressentir, quand la langue devient un outil de manipulation. Alors ensuite, quand on parle de la langue, il faut toujours s'intéresser à quel est le locuteur. Qui parle ? D'où tu parles ? Question qui était posée tout le temps dans les réunions dans les années 70. D'où tu parles ? Qu'est-ce que ta langue véhicule que tu ne sais même pas parce que ça vient de ta catégorie sociale, ta position, ton pouvoir ou ton absence de pouvoir, etc. etc. Aujourd'hui, sur Internet, on fait parler, avec les guillemets nécessaires, les robots. On a des robots qui tweetent en permanence, qui mettent des posts sur Facebook. Qui sont-ils ? Comment en fait imaginer que vous avez des amis sur Facebook qui sont des robots et qui peuvent même écrire des choses indépendamment de la situation, un locuteur humain va s'adapter aux situations. Un robot, il a un objectif, et c'est cet objectif qu'il va mettre en œuvre. C'est pour ça que la plupart du temps, les robots sur les médias sociaux sont utilisés comme des trolls. Ils font du trolling, c'est-à-dire leur objectif n'est pas d'exprimer une idée pour essayer de convaincre quelqu'un d'autre. Objectif traditionnel de, je vous disais, depuis la relation amoureuse jusqu'à la propagande politique, c'est bien c'est ça. J'ai une idée, j'essaye de convaincre l'autre à partir de mon idée. Les robots ne font pas ça. Leur objectif, c'est d'empêcher la cristallisation des idées chez les autres. C'est-à-dire de transformer en fait tout débat en quelque chose qui devient dérisoire, qui devient très vite dérisoire parce que ça perd son sens. Et les robots sont très très forts pour ça. Il y a des trolls humains. Il y en a dont c'est la spécialité. Il y a un débat quelconque, que ce soit sur Twitter, dans les mailing lists ou sur Facebook, et leur commentaire ou leur réponse est toujours à côté de la plaque. Ils sont jamais satisfaits par... ils engagent un débat, mais ils ne sont jamais satisfaits par la réponse, etc. Il y a des trolls humains. Mais de plus en plus, on a des trolls qui sont en réalité des robots. La différence fondamentale, c'est que les trolls humains, ils se jouent un par un. D'accord ? Une fois qu'on l'a repéré, en général, on le met dans les indésirables, et puis on ne l'écoute plus, et puis voilà. Les robots, ils sont par millions. Et ils sont financés, la capacité à les développer, à les financer, par les plus riches. Donc on a à nouveau une reproduction via les robots de la volonté des dominants sur les dominés pour empêcher en fait l'émergence, leur forme d'organisation, leur forme d'émergence de nouvelles idées. À l'opposé du robot, moi je voudrais parler du livre d'abord. Pas seulement parce que je suis éditeur, pas seulement parce que je suis un vieil intellectuel, mais parce que le livre est un élément fondamental de l'autonomie, et cela à plusieurs niveaux. Quand je dis le livre, ce n'est pas forcément le livre d'idées, c'est le roman. Des tas d'études ont été menées qui montrent que les lecteurs de romans ont plus de capacité d'empathie que ceux qui ne lisent pas de romans. Alors ça, c'est un élément, je pense, qu'il faut vraiment mesurer, c'est très très important. À un moment où on essaye de diminuer la place des romans en lisant au lieu de lire des livres, en lisant des magazines ou en lisant sur Internet, on va perdre la capacité à se plonger dans la peau de quelqu'un d'autre. Qu'il soit bon ou qu'il soit méchant, peu importe, mais c'est quelqu'un d'autre. Et donc, de comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui existe, qui a ses propres modes de fonctionnement, et donc d'être capable de se mettre en relation avec lui, de développer non pas une idée de pouvoir absolu, mais une idée de négociation, qu'on appelle l'empathie. Et ça, donc on le retrouve principalement dans le roman. L'empathie, c'est absolument nécessaire si on veut créer une société. Même quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut être capable de vivre avec lui. Que j'aime ou que j'aime pas, mon voisin, c'est mon voisin. Et donc, comment on va continuer à faire société ? Remarquez que si c'est mon voisin numérique, ça ne se marche pas du tout comme ça. Je perds cette capacité d'empathie. J'y reviendrai, mais dans les réseaux numériques, c'est plutôt l'affrontement qui est recherché, la volonté de pouvoir, l'hubris, que la capacité de dire « bon, ok, celui-là, je ne l'aime pas, mais il va bien falloir que je vive avec. Et puis, le jour de la fête des voisins, on trinquera avec un pastis et on espère que ça va faire passer les choses. » Voilà. Donc, l'agressivité permanente dans les médias sociaux a un objectif, c'est détruire cette relation d'empathie. Et je pense que l'objectif des gens qui gèrent les médias sociaux est bien de détruire cette capacité d'empathie. Si on regarde un Mark Zuckerberg, etc., c'est ça. Il faut avoir raison. Avoir raison, c'est avoir une e-reputation. Être capable d'agréger autour de soi des gens qui considèrent que vous avez raison et qui vont marcher avec vous. Voilà. Aucun média social n'est construit pour qu'il y ait un débat entre personnes qui ne pensent pas la même chose. Il y a des affrontements il y a des constitutions de bloc, il n'y a pas d'organisation du débat. Alors ça devait être le rôle des médias traditionnels, de la place publique. Hein. C'est sûr que eux non plus, les médias traditionnels ou la place publique, n'ont pas forcément le succès nécessaire dans l'organisation des débats. On a souvent des débats entre gens qui pensent pareil, sur le fond, puis qui divergent sur les détails. Hein. Mais sur les médias sociaux, c'est strictement le contraire qui est recherché. Pourquoi ? L'affrontement, c'est clair, ça fait du spectacle. Et qui fait du spectacle fait des lecteurs, des gens qui reviennent. C'est la fameuse économie de l'attention dont je vous ai parlé la dernière fois. Alors, dans ce cadre-là, il y a vraiment l'importance du livre, parce que le livre, c'est un élément autonome. Hein. Même quand il est numérique. Là aussi, quand je dis livre, moi, j'aime cette définition simple de Michel Melot qui dit « le livre, c'est ce qu'il y a entre deux couvertures ». Ça veut dire tout est là, tout est présent dans le livre, il est fait pour être lu, du début à la fin, ou si possible, etc. C'est pas le web où on va sauter d'un point à un autre, le web c'est fantastique, mais un livre c'est autre chose, c'est juste quelque chose où un auteur ou un collectif d'auteurs a organisé une pensée en vous demandant d'essayer de la suivre, de la comprendre, de la rejeter. Il faut aussi lire des livres de gens avec qui on n'est pas d'accord, enfin en particulier... J'espère que vous le faites aussi. Mais voilà, il faut rentrer dans une pensée pour essayer de la comprendre. C'est la base des humanités, qui est ce que vous faites ici. Alors, le problème du livre numérique, à mon avis, il ne tient pas au fait que c'est un livre. Ça doit être un livre autonome qu'on peut lire quand, en n'étant pas connecté, etc. C'est que, justement, les concepteurs de livres et de liseuses de livres numériques et de liseuses numériques, surtout de liseuses numériques, ont voulu, eux aussi, jouer dans ce grand jeu de l'économie de l'attention. Et alors là, c'est une publicité. Alors, celle-là n'est pas traduite, mais qui nous dit qu'on peut, en fait, avoir des statistiques sur les livres qui en a besoin, qui le veut, qui veut le lire. Faites comme les autres, quoi. Et donc, on peut, dans le livre, passer en permanence de la lecture à une activité sociale, entre guillemets, comme, par exemple, faire une sélection et la tweeter. C'est vachement intéressant comme lecture. On est concentré, quoi. Et alors, vous allez en apprendre sur votre manière de lire avec des statistiques à la fin sur voilà, comment, à quelle vitesse, etc. etc. Vous sentez libre après de savoir qu'on calcule la vitesse à laquelle vous lisez, le nombre de pages que vous tournez, avec juste l'idée qu'on pourrait même payer... à la page, la lecture. Vas-y, tais-toi. Even more interactive and fun. Hein, donc, cette transformation de la lecture en quelque chose qui serait fun à cause de ce qui se fait en dehors de la lecture, et non pas de la lecture elle-même. Mais c'est très fun de lire des romans, quand même. Ça n'a pas besoin d'avoir des statistiques hein, pour prendre son plaisir à lire un bon roman. Enfin, je parle à des étudiants d'humanité, n'est-ce pas ? Donc voilà, donc on a un phénomène de lecture sous contrôle. Adobe a même, Amazon a même inventé un système de paiement à la page. Vous payez en fait au nombre de vous payez l'auteur au nombre de pages lues. C'est-à-dire, c'est détruire l'idée de livre. Faire du livre une succession de pages. Et si le livre vous tombe des mains, bah ouais, ça arrive. Hein. Ça arrive plus souvent qu'on ne voudrait. Mais bon, voilà. Après, il y a les gens de Adobe qui créent le DRM. C'est ça, ici. DRM, Digital Rights Management. C'est la transformation, en fait, de votre livre en charabia que seul un logiciel adapté va pouvoir décrypter pour vous le rendre lisible à vous. Donc, vous ne pouvez pas aller regarder le fichier. Il vous faut le logiciel de Adobe Reader, pour pouvoir décrypter ce charabia-là et que ça devienne de réels caractères sur votre page. Or, on s'est aperçu que les lecteurs de Adobe envoyaient en permanence de l'information au serveur de Adobe sur votre lecture, avec effectivement une demande de la part des éditeurs pour trouver de nouveaux modèles économiques, pour essayer de transformer la vente du livre, comme jusqu'à présent le modèle économique le plus répandu, en un autre modèle économique qui va être un modèle de service, d'usage, et non plus d'achat d'un objet. Je ne sais pas si vous êtes de gros lecteurs, mais les gros lecteurs, ils sont toujours pleins de livres qu'ils ne lisent pas. Ils achètent, qu'ils posent à côté, qu'ils vont lire, qu'ils ont énormément envie de lire. Puis il y en a tellement, puis il y en a des nouveaux qui arrivent, puis voilà, puis il y a des livres qu'on ne lit pas et qui s'entassent. Mais si on n'en a pas à côté une pile de livres qu'on ne va pas lire, bah alors on ne lit plus. C'est comme la musique. Si on n'a pas plus de musique que le choix qu'on a, bah on écoute la radio, on arrête de sélectionner sa propre collection. Donc là, il y a un véritable phénomène comme ça. Alors heureusement, je vais aller vite parce que donc ça sera le cours de la semaine prochaine sur les usages du livre. Heureusement, sur Internet, il y a aussi de nouveaux usages autour du livre. J'aime bien le booktubing, c'est-à-dire les gens qui parlent des livres qu'ils aiment sur Internet. Hein, donc, en général, c'est majoritairement des jeunes filles. Voilà. C'est majoritairement un type de littérature fantasy. De la fantasy, des histoires, des romans de jeunesse, etc., etc. Mais derrière, il y a l'idée de constituer des groupes de lecteurs. Alors rappelez-vous, premier transparent, j'ai dit qu'est-ce que c'est que le commerce électronique ? C'est l'idée d'affiliation. Ce n'est pas seulement l'idée de vendre quelque chose à quelqu'un. Eh bien, aujourd'hui, tout système d'information, soit un média officiel ou un média, ou les gens sur un média social, se comportent un peu de la même manière. Ils cherchent à s'affilier, à avoir des lecteurs permanents, mais aussi à créer des groupes. Et les booktubeurs échangent entre eux et créent plusieurs groupes. Ils aiment échanger entre eux. Ils constituent une espèce de micro-société de gens qui aiment le livre. Ce n'est pas seulement donc, des top-down. On n'est pas seulement dans une logique de médias broadcast, de médias diffusés. On est bien dans la logique de constitution, de, avec tous les guillemets nécessaires, il y en a un paquet, communauté. Autre communauté que je trouve assez importante, c'est Wattpad. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent Wattpad ? Ah, quand même un peu, c'est bien. Ben, c'est pas beaucoup. Hein. C'est le plus grand média social d'écriture et de lecture. Hein. Donc, c'est un média social spécialisé dans le fait que tout le monde peut devenir écrivain, peut écrire un roman et que les autres, la communauté, là aussi avec tous les guillemets nécessaires, va être capable d'accompagner l'auteur en herbe pour l'aider à développer son style, à développer ses personnages, à améliorer son travail. Alors on y trouve bien sûr principalement des romans d'amour et de fanfiction, hein, puisque les usagers sont très jeunes. J'ai eu l'occasion de faire une conférence devant des collégiens de fin de troisième. Et là, quand j'ai demandé qui utilisait Wattpad, c'était 70% de la salle. Les profs ne connaissaient pas. Là aussi, quelque chose d'assez intéressant. On nous dit partout que les gens ils n'aiment plus l'écriture, ils n'aiment plus la lecture. Ils... Non, c'est qu'il y a d'autres pratiques qui se développent et que... Voilà, qui échappent, qui sont sous le radar, en fait, de l'usage des enseignants ou de l'usage des médias. Alors, j'aime bien ces citations. C'est une jeune fille de troisième, à l'époque, qui écrivait sur Wattpad. Et ce qu'elle dit, en substance, c'est qu'il n'y a pas de commentaires négatifs. Il n'y a pas de marque en rouge sur le bord de la page et de notes en dessous de la moyenne à la fin. Les gens sont là pour s'aider. C'est mythique, hein. C'est vu par une élève de troisième. La réalité, c'est qu'il y a aussi des critiques négatives ou des choses comme ça. Mais globalement, voilà. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'avoir le plaisir d'écrire. Même chose pour les images. J'aime bien cette phrase de André Gunther, qui est, donc, je crois que je vous en ai déjà parlé la dernière fois. C'est un spécialiste de l'image, de l'histoire de la photographie, mais aussi de l'usage des images. Et qui, quand il parle du selfie, il nous dit que le selfie, qui est une pratique, courante sur Internet, enfin, c'est vraiment... Qui n'a jamais fait de selfie ? Bon, voilà, tout le monde fait ça. Et il dit que c'est la partie émergée de la réappropriation des images. C'est-à-dire la capacité des gens à non plus avoir des professionnels qui font les images qu'ils vont voir, remarquer, mais bien la capacité des gens à produire eux-mêmes toute une série d'images, notamment d'images d'eux-mêmes, de l'image d'eux-mêmes. Bien sûr, la presse ne l'a pas du tout interprété comme ça. Que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est « the me generation », « moi, moi, moi ». Hein? C'est-à-dire, encore une fois, on se retrouve avec de l'ado-bashing, c'est-à-dire le fait d'essayer de toujours avoir des analyses négatives sur les comportements, les attitudes, les pratiques culturelles des jeunes. Hein? Ça a toujours été. La loi de 45 sur les bandes dessinées a été là pour protéger la jeunesse. C'est-à-dire une revue de bande dessinée ne devait avoir que la moitié en bande dessinée, le reste devait être du texte, parce que c'est la seule chose qui était importante. Voilà, donc, vous voyez, en permanence, chaque fois qu'il y a un nouveau moyen de communication, on dit, ouais, les jeunes, la manière dont ils s'en servent est contraire à leur propre intérêt, donc il va falloir les protéger d'eux-mêmes, et on fait de l'adolescent bashing, quoi, en permanence. Juste, pour vous rappeler, l'analyse que fait Marshall McLuhan, spécialiste des médias très connu dans les années 60, du mythe de Narcisse. Il dit, en substance, et le petit décalage est intéressant, Narcisse n'était pas amoureux de lui-même, il était amoureux de son image. Quelle est la réalité de ce que décrit le mythe de Narcisse? Il va chercher à attraper, non pas lui-même, mais son image. Et l'interprétation consiste à dire qu'être narcissique, c'est l'intérêt pour soi-même, c'est peut-être une interprétation erronée. C'est un intérêt pour son image. Dans un monde, par contre, où la e-reputation, où la capacité à projeter son image en permanence sur le numérique devient importante, alors, effectivement, on peut avoir des problèmes d'enfermement derrière sa propre image, d'isolement derrière sa propre image. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, hein, mais ça veut dire qu'il faut prendre du recul sur les analyses faciles qui, malheureusement, font souvent les unes. Alors, comment ce... Avant de parler des fake news, parlons un peu de comment on va apprendre à se comporter. Moi, j'aime beaucoup cette proposition du Conseil national du numérique qui a pas mal d'années, plus le même que maintenant, qui disait qu'il faut apprendre à l'école à publier. Pas seulement à écrire, pas seulement à faire des dissertations qui vont seulement être données au professeur qui va être le seul lecteur, etc. C'est pas intéressant, ça. Ce qui est intéressant, c'est de publier, c'est-à-dire de rendre public quelque chose. Et rendre public, c'est prendre soin du lecteur. Cette capacité d'apprendre à prendre soin du lecteur... Et on va y revenir tout à l'heure, mais dans la circulation des fausses nouvelles, c'est un élément très important. Est-ce que je prends soin ou pas de l'autre, de celui qui va être après moi? Prendre soin, c'est vraiment apprendre réellement une forme de comportement. Et la publication, bah ouais, on n'a pas envie de publier quelque chose où il y a des fautes d'orthographe, donc on va prendre soin du lecteur en prenant soin de son texte. On n'a pas envie de publier quelque chose qui dirait des erreurs. Donc on va essayer de prendre soin de sa documentation pour la confronter à ce qu'on va donner à un lecteur, etc. Donc la capacité à s'adresser à l'autre par la publication peut être un outil de concentration, de prise de recul, justement, sur les comportements. Enfin, pour terminer cette question du livre, je pense qu'on a besoin d'une nouvelle modernité. La modernité, vous savez... C'est un phénomène qui a globalement trois choses. L'apparition du livre, hein, et donc la capacité à faire circuler les idées. Donc c'est la baisse du coût énorme du livre. C'est la naissance de la science, hein, donc la science à la fois comme genre littéraire, mais le laboratoire, l'existence du laboratoire où on essaye d'éliminer toute une série de facteurs pour se concentrer sur un ou deux critères et voir quel est l'effet en réalité de ces un ou deux critères, donc d'établir là des lois scientifiques qui se répercutent, mais qui sont sur un ou deux critères. Et enfin, le troisième élément, c'est la naissance des États-nations après le traité de Westphalie. Ça a constitué la modernité dont l'apogée a été les Lumières, donc les philosophes des Lumières qui ont rajouté à ça la couche de nécessité d'organiser la société de façon démocratique en supprimant en fait l'arbitraire qui était porté par la royauté. Cette logique de la modernité a été mise en cause principalement à partir des années 60-70, dans ce qu'on appelle les postmodernes, la postmodernité. Alors, mise en cause pour des raisons qui ne sont pas toutes désastreuses. Ces images de la modernité que j'ai mises, là, ici, bon, là, la science, Newton, écrit par Voltaire, mais enfin, ici, le cercle de débat d'encyclopédistes, c'est que des messieurs. Je dirais même que c'est que des vieux messieurs. Donc, on voit bien que la volonté d'universalisme qui allait avec les Lumières, avait un universel qui était plutôt blanc, mâle, âgé. Je dirais que ça ne change pas tant que ça. Peut-être âgé a diminué dans les nouveaux leaders, mais les deux autres critères restent quand même assez importants pour nos dirigeants actuels. Donc, voilà. Il y avait des bonnes raisons de critiquer, mais on a abouti à deux choses. C'est dans la postmodernité, c'est la prééminence de l'individu. C'est-à-dire qu'on ne considère plus les sociétés comme étant des choses qui sont en relation dialectique avec l'individu, mais c'est l'individu qui compte et ses choix lui-même, c'est son individualisme dans le choix, va déterminer collectivement par émergence et non plus par décision, va déterminer le comportement d'ensemble d'une société. Et donc, ça va renforcer l'idée de relativisme. C'est-à-dire l'idée que, oui, toute chose égale par ailleurs, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on a certainement besoin, parce que ces éléments-là de la postmodernité sont des éléments fondateurs de l'Internet et des plateformes. Hein, c'est-à-dire, l'Internet, je crois que je vous l'ai expliqué déjà la dernière fois, considère avant tout des individus et jamais des groupes. Parce qu'un média social, ce n'est pas faire un média social de groupe, hein. C'est juste que dans un débat, même les pages de Facebook ou les choses comme ça, ça ne représente pas l'existence de groupes réels avec des idées collectives qui sont débattues collectivement dans le groupe et qui sont ensuite débattues à l'échelle de l'ensemble de la société. Donc, ça ne peut être que des individus, ce qui va d'ailleurs de pair avec toute la première partie dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire du commerce électronique, de en fait l'Internet comme outil d'influence pour construire la société de consommation, pour prolonger la société de consommation. Donc on a besoin d'un retour des Lumières, comme le dit Marina Garcés, une philosophe espagnole qui mériterait d'être traduite. Il n'y a pas encore de livre d'elle en français. Je connais un bon éditeur, mais c'est pas, qui n'a pas les moyens de tout traduire, ce qui est bien dans le monde. Voilà. Et puis le retour des communs, hein, donc le livre de Benjamin Coria qui s'appelle le retour des communs. La nouvelle modernité va avoir besoin aujourd'hui de repenser la notion de corps intermédiaire. Dans les médias sociaux, il n'y a pas de corps intermédiaire. On ne négocie qu'avec des individus. Pour Amazon, il n'y a que des individus. Le client est roi. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'association de consommateurs, il n'y a pas de règles du jeu, il n'y a pas de terrain de jeu défini collectivement par des lois. Et enfin, la nouvelle modernité, elle va s'adapter avec les nouveaux documents. Bon, là, j'en ai parlé avant, les nouvelles capacités d'écriture. Alors, ces premières choses étant dites, posons-nous la question de savoir pourquoi entrons-nous dans une ère que l'on dit « post-truth ». Post-truth, ça a été le mot de l'année de l'Oxford English Dictionary en 2016. Tous les ans, l'Oxford English Dictionary définit le mot de l'année. Et ça a été post-truth, c'est-à-dire l'idée qu'on n'était pas après la vérité. Post ne veut pas dire après la vérité. Ça voudrait dire qu'il y a eu de la vérité avant. Bon, on va voir, hein, c'est pas. Mais c'est au-delà de la vérité. On est au-delà de la relation aux faits qui sont capables de prouver quelque chose. Alors c'est important ça, cette capacité de se renvoyer aux faits pour prouver. C'est la base de la science. La base de la science, c'est de dire, ok, je peux faire toutes les hypothèses que je veux, mais à un moment donné, l'expérience de laboratoire doit prouver ou pas prouver. Et dans les sciences complexes, comme les sciences des rayonnements cosmiques et des choses comme ça, on a des hypothèses qui ne sont pas encore validées. Voilà. Mais les gens essayent de construire des laboratoires qui vont être là pour valider ces hypothèses-là. Et régulièrement, certaines sont validées. Donc, qui fait que le calcul correspond à la réalité par la preuve, par le rapport aux faits. Faites attention, dans les sciences modernes, on commence à avoir des sciences infalsifiables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire c'est juste ou c'est faux. La plus dangereuse de toutes, c'est ce qu'on appelle le geoengineering, c'est-à-dire la capacité à transformer la Terre pour la refroidir. Oui, maintenant qu'elle se réchauffe, il va falloir trouver des moyens de la refroidir. Et donc là, il y a toute une série d'inventions de tous les docteurs Folamour possibles et imaginables qui vont projeter du sulfure dans l'atmosphère, qui vont mettre du plancton, du fer dans les océans pour favoriser le plancton qui va capter le carbone. Enfin, c'est ce qu'on appelle les puits de carbone. Enfin, bon, il y a toute une série de méthodes de géoengineering. Et à chaque fois qu'ils font une expérience, la conclusion, c'est bon, on a rencontré tel et tel problème, mais c'est juste parce que l'expérience était trop petite et qu'elle n'a pas été réalisée à l'échelle réelle, qui est l'échelle de la planète. Et là, vous avez bien que vous avez une science infalsifiable. Ils auront forcément toujours raison. On est déjà au-delà de la relation aux faits, y compris dans le domaine scientifique. Et donc, on voit bien qu'il y a une pression globale qui n'est pas juste les manipulations de langage de Donald Trump, hein. Il ne faut pas réduire ça à ça. Il y a une pression globale à ne plus avoir une référence aux faits, mais avoir une référence aux idées, aux idéologies. Et l'idéologie, moi j'ai une définition, c'est quand on a la réponse avant d'avoir posé la question. Alors, on utilise le terme fake news. Fake news, attention, en anglais, ce n'est pas fausse nouvelle. Ça serait false news. Fake news, c'est nouvelle fabriquée. C'est une information fabriquée volontairement pour tromper. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'avant, il y avait la vérité, mais c'est ça. Le problème des fake news, c'est que la tendance est à la... Comment dire ? La tendance est à dire qu'il y a un producteur de fake news. Il y a quelqu'un qui fabrique la fausse nouvelle et c'est lui qui a la responsabilité du développement de ces fausses nouvelles. Et donc, si on peut l'empêcher, lui, de promulguer ces fausses nouvelles, alors on sera sorti du problème. Ouais, c'est oublier que c'est la responsabilité des individus dans la propagation des fausses nouvelles. Que c'est ça l'élément central que nous apportent les médias sociaux. C'est cette idée que je peux retweeter, partager, là aussi avec plein de guillemets, sur Facebook, que je peux rediffuser en permanence une information, souvent avant même de l'avoir lue et comprise, juste parce qu'elle me parle bien, elle correspond à mon idée ou mon idéologie ou mes croyances. C'est le terme d'infox qui est validé aujourd'hui par le Conseil de délégation générale de la langue française. Moi, je trouve que c'est un très beau terme, c'est un mot valise entre information et intox. Donc c'est des infox, on voit bien. Alors ça ne date pas d'hier, cette petite vidéo, c'est Ningesser et Colli, 1927, qui sont les premiers à partir de France, ils partent du Bourget, sur leur avion à hélice, et pour aller traverser l'Atlantique, vous avez tous appris que c'est Charles Lindbergh qui l'a fait dans l'autre sens, eux, ils étaient les premiers, et donc ils partent.
Ils décollent en 56 secondes.
Le décollage est le plus difficile parce que, bien sûr, on est très chargé en essence. D'ailleurs, ils n'ont pas rempli la totalité des réservoirs à la demande de Ningesser parce qu'ils craignaient de ne pas arriver à arracher l'avion du sol. Et l'avion, d'ailleurs, a fait, avant de décoller, deux petits bonds et ensuite il a pris son envol. Pour lui, il avait la quasi-certitude d'arriver à Terre-Neuve. Et il savait qu'avec le carburant qu'ils avaient pris, ça serait suffisant.
On les quitte vers Étretat. Ils volent à 135 km/h, un peu moins vite que prévu. Les Parisiens guettent les nouvelles qu'on affiche au fur et à mesure devant les sièges des journaux.
Ils sont sur leur Facebook d'époque.
L'oiseau blanc à New York, le lundi 9, entre 21h et 22h heure française. La presse du 10 mai anticipe le succès. Des messages sont arrivés, des témoins les ont vus à Terre-Neuve. En Nouvelle-Écosse, la marine américaine les signale à Boston à 4h. Ils seront donc à New York vers 5h. Le pays explose de joie et improvise des balles dans tous les quartiers.
Voilà. Bien sûr, vous savez que Nungesser et Colly ne sont jamais arrivés, qu'on n'a jamais retrouvé leur corps ni leur avion. Donc, cette idée... pourtant, ce phénomène, donc, la presse dit « on l'a vu à Boston ». Enfin, on se croirait sur Facebook. Quand il y a eu l'ouragan Sandy, sur Facebook et Twitter, les gens balançaient comme ça toute une série de fausses nouvelles, qui étaient d'ailleurs dramatiques pour les pompiers, les vrais sauveteurs, sur qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit, telle chose. Voilà. Donc on est dans cette logique-là depuis longtemps. En fait, déjà au siècle dernier, Mark Twain disait qu'un mensonge peut faire le tour de la Terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Alors, on a aujourd'hui des gens qui sont bien des producteurs de ce genre de fausses nouvelles, c'est-à-dire qui créent des revues dites satiriques, des journaux satiriques, mais qui en réalité sont là pour déstabiliser l'ordre démocratique, les gens qui sont au pouvoir, etc. Ce Paul Horner a un empire comme ça, et il gagne de l'argent, comment ? Avec les publicités qui sont ajoutées par Google, les Google AdSense. C'est-à-dire, quelque part, il peut gagner de l'argent en créant ces sites de fausses nouvelles parce que les géants de l'Internet le financent. Ils le financent au nombre de pages vues. C'est la seule chose qui leur importe, le nombre de fois où les gens vont sur leur site. Et donc, la nécessité de faire reproduire cette information sur les médias sociaux au maximum. Reprise de l'information, même si, en l'occurrence, le fait que Obama a déclaré que l'élection était invalidée et qu'il fallait revoter, vous savez bien que ça n'a jamais été vrai. Voilà. Alors, la définition de l'infox est quand même assez difficile, parce qu'on a d'un côté ce qui est de l'ordre du canular, une revue comme le Gorafi pratique le canular, et ça serait quand même dommage d'interdire le canular. Pourtant, que ce soit bien, bien distingué. C'est la mauvaise information ou celle qu'on appelle attrape-clic, clickbait, c'est-à-dire des informations dont seul le titre, en fait, dit quelque chose qui vise à attirer notre clic, beaucoup plus qu'à distribuer une information. C'est aussi une information qui peut être très orientée politiquement ou idéologiquement. Là, c'est quand même un peu problématique, parce que si c'est très orienté, on parle de faits, ok, là, il n'y a pas, les faits sont les faits, ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, si c'est les idées, si c'est les objectifs, si c'est les projets, ben oui, cette idée d'interdire ce qui serait idéologique, l'idéologue, c'est toujours l'autre, hein. Donc, les gens ont le droit d'avoir des idées. Enfin, je pense qu'ils ont non seulement le droit, mais ils en ont même le devoir. Voilà. Et enfin... c'est un journaliste qui écrit ça, l'erreur journalistique de bonne foi. Il a oublié quand même la manipulation des journalistes par les spécialistes militaires. Ce qu'on appelle chez les militaires les psyop, les opérations psychologiques. Et quand même, n'oubliez jamais que la guerre d'Irak, en 2003, a été déclenchée par une série d'opérations psychologiques, notamment la manipulation d'une journaliste du New York Times, principal journal de la planète quand même, sur cette histoire d'armes de destruction massive dont nous avons bien vu l'usage effectivement à l'époque. Donc on a là quand même toute une définition qui est faite donc par les gens des décodeurs. Alors est-ce qu'il faut une loi ? Elle a été votée il y a 2 jours. Donc oui, nous aurons une loi. Le problème, c'est qu'on en avait déjà une, qui interdisait la diffusion de fausses nouvelles, qui s'appelle la loi sur la presse de 1881. D'accord ? La loi de la liberté de la presse, il y a liberté de la presse à partir du moment où on ne diffuse pas volontairement des fausses nouvelles. Ah, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais les sites sur Internet ou les médias sociaux, ce n'est pas de la presse. Oui, c'est vrai, mais on aurait pu, la loi sur la liberté de la presse a déjà été modifiée plusieurs fois pour élargir l'assiette, sans avoir à modifier la loi. Parce que le grand danger, c'est le retour d'Anastasie. Anastasie, c'est le petit surnom de la censure, qu'on voit ici avec ses grands ciseaux. C'est en fait établir une loi qui définirait dans la loi ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est quand même très dangereux pour la liberté d'expression. C'est très dangereux pour la capacité de contestation. Hein. Rappelez-vous quand même, par exemple, l'affaire Cahuzac, du nom de ce ministre spécialisé dans la fraude fiscale qui fait, quand il était député, un rapport sur la fraude fiscale et qui lui-même a un compte en Suisse et à Singapour. Quand le journal Mediapart publie l'information, tout le monde dit « mais c'est une fausse nouvelle, ça n'est pas vrai ». Il a fallu plusieurs mois avant qu'effectivement ça apparaisse comme étant vrai et qu'il y ait des missions de ce ministre et une loi sur la moralisation de la vie publique qui en découle. Hein. Donc si une loi sur les fausses nouvelles comme ça avait pu exister, on aurait très certainement bloqué l'information dès le début. Donc on se retrouve là avec un danger pour le journalisme, un danger pour les lanceurs d'alerte. Hein, aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a des lanceurs d'alerte qui sont victimes du fait qu'ils ont dit la vérité. Bon, ça, je vais sauter. Donc voilà. Alors, derrière cette idée donc, des fake news, il y a en fait la volonté de faire disparaître... Alors, les journalistes s'en sont emparés. Parce qu'il y a quand même, derrière cette affaire-là, l'histoire la querelle des anciens et des modernes. Les médias traditionnels se sont estimés les garants de cette réalité, du rapport aux faits. Et que ce serait uniquement les nouveaux médias, l'Internet, qui, lui, serait contraire aux faits. La réalité, c'est que c'est bien plus partagé. Hein, il y a sur Internet, effectivement, des promoteurs de fake news, mais il y a aussi des gens qui dévoilent des choses qui sont réelles et qui se passent réellement. Parfois même, on cherche à les interdire. Par exemple, aux États-Unis, on a interdit de filmer les abattoirs et les fermes. En France, ce n'est pas encore interdit, mais bon, on voit bien avec le travail de l'association L252 que voilà, c'est un risque qui commence à peser sur eux. Donc, et puis que dans la presse traditionnelle, il y a effectivement des journaux qui cherchent à avoir la vérité. Parce que la vérité, ça existe rarement, hein. Il faut quand même être réaliste. C'est un rapport aux faits, ramener les idées aux faits. C'est ça qui est beaucoup plus important que de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Même en science, ça existe très rarement. C'est une relation aux faits entre la théorie et les faits. Voilà. Donc les journalistes essayent de dire ben, c'est nous qui sommes les détenteurs d'une réalité démocratique parce que nous sommes la place publique. Ils ont raison, d'un certain point de vue. Jusqu'à présent, ils étaient la place publique. Maintenant, il y a une autre place publique qui se met en œuvre et qui est dérégulée et qui a été manipulée par des robots, des locuteurs, des puissances étrangères, des individus mal formés et qui s'appuient souvent sur des fausses nouvelles, mais pas uniquement. Donc on voit bien qu'on ne va pas pouvoir revenir à une place publique ancienne, celle de la messe du 20h. Comme on disait quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire où toute la France regardait souvent à l'époque le même journal télévisé à 20h. On ne reviendra pas à ça. Donc il va falloir trouver d'autres méthodes. Le problème, c'est qu'il y a inégalité devant le mensonge. Là, j'ai un exemple. Le pape soutient Trump ou dénonce Hillary Clinton. C'est partagé 961 000 fois. Le rapport à la page expliquant que c'est faux, 33 000. Ouais, on a là une grande disconnexion, et sans compter que l'information disparaît après. On est sur Internet. Donc on ne peut plus revenir en arrière et dénoncer le ETF News qui a dit ça à tel jour. Ben, ça n'existe plus. Là aussi, la disparition de la preuve. Autre aspect de ce monde au-delà de la vérité, c'est le complotisme. Alors, c'est compliqué le complotisme. Bon, d'abord, il y a effectivement des gens qui croient qu'il y a un complot sur tout. OK. 2,5 milliards d'internautes. Vous croyez qu'on peut cacher quelque chose? Ça existe de moins en moins, la capacité à cacher quelque chose. Donc la capacité à avoir un complot illuminati derrière qui serait inconnu de tout le monde, c'est pas possible. Et c'est de moins en moins possible chaque jour, puisque le nombre d'internautes augmente. Je crois que c'est une citation certainement apocryphe de Benjamin Franklin qui dit qu'un secret partagé par 3 personnes ne reste un secret que s'il y en a 2 qui sont mortes. Alors il y a effectivement toute une série de croyances absurdes, il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate, etc. Aux États-Unis, quand on présente statistiquement des extraits de la Constitution des États-Unis aux gens et qu'on leur demande qu'est-ce que c'est, petit a, Constitution des États-Unis, petit b, propagande communiste, ils sont quand même à 60% à trouver que c'est de la propagande communiste. Bon. Mais en même temps, il y a aussi une espèce d'impréparation, d'indigence des institutions. L'affaire du Lévothyrox, par exemple, nous montre ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'expliquer les choses, on a renvoyé des gens qui avaient réellement des effets comme si c'était des promoteurs de fausses nouvelles. Alors que ce n'était pas ça l'enjeu. C'était vraiment, il y avait un problème relativement simple, mais qui nécessitait d'être expliqué. Donc là aussi, les institutions qui très souvent font dans la pédagogie dès qu'il faut faire passer de toute force une idée nouvelle ou une loi nouvelle, ne savent pas faire de la pédagogie quand ils sont mis en cause, y compris de manière erronée. Donc en fait, alors autre élément, il faut peut-être que j'accélère. Ah oui, oh là là. Bon, alors c'est le suivisme. Je voudrais juste vous montrer qu'on dispose aujourd'hui d'outils au-delà de la vérité. Bon, d'abord, la photo, Photoshop. Donc, une séance de photographie. Prends une photo. Et elle va être traitée sous Photoshop. Alors, d'abord traitée par la mise en œuvre et le travail sous Photoshop. J'aime beaucoup ça. Donc créer en fait un modèle qui n'existe pas et qui va s'imposer aux gens. C'est un peu fort. Je lance celui du dessous parce qu'on est pressé. Vous croyez avoir affaire au président Obama et en réalité, pas du tout. C'est un faux président qui parle. Parce que c'est des chercheurs qui ont modélisé le mouvement de ses lèvres et qui sont capables de le reproduire et de lui faire dire n'importe quel message, texte, vous allez voir tout à l'heure, lu par une autre personne, avec son intonation à lui, avec ses mouvements de lèvres à lui. Vous imaginez une telle vidéo comme ça balancée 3 jours avant une élection? Vous voyez là, c'est lui le locuteur et c'est la marionnette qui est fabriquée. Donc on voit bien qu'on va disposer d'outils qui vont renforcer l'aspect, ça je les laisse tomber. Juste pour dire, on dénonce souvent les médias sociaux, mais peut-être que le média social qui porte le plus les fake news, c'est YouTube, hein, avec toute une série de vidéos. C'est juste penser, là je voudrais insister sur une différence entre le bullshit et le mensonge. Un menteur sait qu'il ment. Quelqu'un qui raconte du bullshit, n'importe quoi, comme le fait Donald Trump, il ne sait pas forcément qu'il raconte n'importe quoi. Et vous aurez les diapositives, mais les textes même sont des textes qui n'ont pas de sens. Là, j'ai un discours de sa campagne en 2016. Le texte, si vous le lisez bien, n'a aucun sens. Par contre, il est là pour instiller la peur. Et les tweets de Donald Trump, son agressivité dans les tweets, sont dans cette même logique d'instiller la peur avec des choses qui n'ont pas forcément de sens, d'ailleurs qu'il va contredire le lendemain, au nom des faits alternatifs. Les faits n'existent plus. Ça crée tout ça, ce que Fred Turner appelle un individualisme autoritaire. Il fait juste remarquer une chose, c'est que celui-ci est né en même temps que la télé-réalité. c'est l'existence de la télé-réalité qui a transformé toute personne en spectateur de sa propre vie, avant même les médias sociaux, et qu'on néglige la puissance de la télé-réalité. N'oublions pas que Donald Trump est un produit typique de la télé-réalité avant d'être l'enfant de Twitter. Alors ça, je vais le sauter complètement, c'est dommage, mais ça sera pour une autre fois. Ah voilà, je voulais juste terminer. Comment on s'en sort de ça? Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a un premier aspect qui est ce qu'on appelle la loyauté des plateformes, c'est-à-dire faire en sorte que les plateformes fassent réellement ce qu'elles disent qu'elles font. Si je permets de me contacter avec mes amis, c'est une plateforme qui me permet de se contacter avec ses amis et pas une plateforme qui a un algorithme qui choisit ce que je vais devoir lire. Ouais. Donc c'est en fait contrer l'effet de réseau. J'aime beaucoup celui-là, c'est Isaac Asimov. Qui d'entre vous a lu les livres de Isaac Asimov, Fondation, Les Robots? Vous êtes décidément une bande de vénards, il vous reste plein de bons bouquins à découvrir. Isaac Asimov, auteur de science-fiction très connu. On est là en 74, et vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'il raconte en 74 comme auteur de science-fiction.
De dire, vous avez le choix.
C'est traduit.
Et vous, alors, quel est votre choix?
Moi, mon choix. Je ne peux évidemment ne parler que pour moi. Ça n'a rien à voir avec le sort du monde qui exige peut-être contrôle et sécurité. Mais ce que je choisis, moi, c'est la liberté et le danger. Vraiment, je pense que plus la technologie sera avancée, plus chacun aura voix au chapitre. Peut-être même que c'est seulement par un surplus de technologie que nous pourrons avoir une réelle démocratie à l'échelle planétaire. Une démocratie où l'opinion de chacun comptera, où le moindre sujet entraînera un vote rapide, où chacun recevra une éducation bien plus efficace, où chacun sera mis au courant des problèmes et des solutions possibles.
Voilà. Donc ça, c'est typiquement l'utopie qui a donné naissance à l'Internet. Or, malheureusement, on s'aperçoit que le même canal qui est censé nous offrir cette démocratie, en réalité, offre les choses, le même parcours au discours de haine. Et je voudrais terminer, c'est ma dernière diapositive, sur la responsabilité des usagers. C'est que, en fait, il faut s'inventer une nouvelle écologie de vie à l'intérieur de l'écosystème numérique. Et ça me semble quelque chose d'excessivement important. Les fausses nouvelles, elles sont peut-être fabriquées par quelqu'un, mais elles sont diffusées par tout le monde, diffusées par tout un chacun. Et j'aime beaucoup cette publicité qui date des années 90, début des 90, sur « Le sida, il ne passera pas par moi ». C'est l'idée qu'aujourd'hui, il nous faut apprendre aux gens à ne pas faire que les fausses nouvelles, que cette destruction volontaire de la relation aux faits. Et donc derrière du débat démocratique, parce que s'il n'y a pas de fait commun, il n'y a plus de débat démocratique possible, il n'y a plus que des affrontements. Il faut vraiment que ce soit clair. Ça passe par l'écologie de chacun d'entre nous. C'est rejeter le FOMO, fear of missing out, cette idée qu'on serait à côté parce qu'on n'a pas été le premier à réagir après une nouvelle fracassante. C'est regarder autrement la e-reputation. La e-reputation, ça ne se construit pas en étant tout le temps sur le créneau, mais ça se construit par la qualité de l'information qu'on va transmettre, créer soi-même ou retransmettre à partir d'autres informations. C'est de lire avant de faire suivre. Si rien que cette chose-là est appliquée, on tue tout le phénomène des fake news. Parce que les gens, ils peuvent être attirés par un titre, mais une fois qu'ils ont lu un article, il est peu probable, en général, vu les circonvolutions dans cet article, qu'ils aient envie de le faire circuler. Lire avant de retweeter ou de partager. Décélérer. Donc ça, c'est tout un mouvement qui existe. On parle de slow food, de slow science. Refuser, en fait, cette logique d'accélérationnisme. Développer l'empathie, ce qu'on appelle la politique du care, c'est-à-dire prendre soin. La politique comme capacité de prendre soin des autres et non pas la politique strictement, les décisions politiques comme des affrontements souvent stéréotypés. Donc l'idée de l'empathie, c'est aussi protéger non pas uniquement l'autre, mais la société dans son ensemble. La société est bien pour chacun des individus, ça n'existe pas en tant que tel, donc il n'y a pas quelque chose à protéger, mais il y a une dynamique, on est dans l'ordre d'une dynamique dans une société, et c'est cette dynamique collective qu'il faut protéger. Et enfin, c'est ce que j'essaye de faire avec les cours de culture numérique ou les petites bêtises que je raconte à droite et à gauche, c'est d'essayer de développer une prise de conscience du mode de fonctionnement de l'écosystème numérique et de quels sont les prédateurs à l'intérieur de cet écosystème numérique qui nous empêchent d'en profiter pleinement pour vivre une vie démocratique et en paix, ce qui, j'espère, est votre souhait autant que c'est le mien. Voilà, je vous remercie. Je m'excuse d'avoir dépassé un peu.